Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bienvenue sur RMC, tout de suite direction le stade Louis II. On est avec Manu Amoros, le stade Louis II, Maxime Tilliel, Florent Germain. Le coup d'envoi de cette rencontre qui va occuper les deux prochaines heures. AS Monaco contre le stade Rennais, Maxime Florent.
Et il vient tout juste d'être donné, c'est parti, coup d'envoi donné par les Rennais avec le Vromayeur qui tout de suite alerte dans son couloir droit son capitaine Amari Traoré. Et on fait toucher le ballon à la charnière centrale New Look du stade Rennais, à savoir Joe Rodon et Arthur Théat. Flo Germain.
Beau petit soleil ici à Monaco. C'est pas un stade plein, mais il y a une ambiance qui reste correcte. Et on sera pas surpris de voir des Rennais en bleu. Il faut s'y habituer, Maxime.
On dirait l'OM, Flo.
Ouais, on dirait l'OM. J'ai vu Steve Mandanda du bleu, j'ai dit ça y est. Il y a quelque chose, il y a un retour.
Il y a un petit côté Inter de Milan également.
Ouais, il y a un petit côté Inter. Maxime, on racontait et on se faisait la réflexion, puisqu'en plus il y avait un petit article sympa sur rmcsport.fr à ce sujet-là, que le bleu c'est la première couleur originelle du stade Rennais. Donc il y a un côté rétro, mais un côté historique aussi d'avoir choisi cette couleur-là pour donc l'un des maillots de la saison. 0-0, une minute de jeu et premier ballon touché par notre ancien Marseillais, Steve Mandanda.
Emmanuel Amoros est avec nous. Oui. Manuel, tu as connu les Rennais en bleu, toi, ou pas?
C'était déjà non, je ne pense pas. J'ai toujours
1901, il venait de naître.
Ah oui. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai pas eu souvenir de
il y a 3 ans, ils ont joué
contre eux. Ouais, mais à mon époque, ils jouaient toujours en rouge et noir. Hein.
Et la première frappe ici à Louis II, elle est signée Gaëtan Laborde, hein, titularisé cet après-midi. Il est à l'extérieur de la surface de réparation en pivot. Il frappe du gauche, c'est capté aisément par Alexander Nübel qui est dans les buts monégasques. Le portier allemand qui cherche une solution, il hésite à relancer court. Finalement, il va allonger le jeu pour alerter Brel Mbolo, associé cet après-midi à Wissam Ben Yedder en attaque. Brel Mbolo qui marche sur le ballon et qui le rend aussitôt à Lovro Maier qui va rejouer vers l'arrière avec Amari Traoré. Les Rennais qui essayent de s'installer hein, petit à petit dans le camp monégasque avec une forte densité de joueurs au milieu du terrain.
Ouais, Manuel Amoros, vas-y. Florent et Maxime. Manuel, oui. Comment tu vois cette rencontre entre les monégasques et les Rennais?
Je pense qu'au début, les monégasques vont être assez prudents parce qu'ils vont vouloir peut-être enlever toutes les fatigues supplémentaires qui restent du match contre le PSV. Et je pense que les Rennais vont essayer d'attaquer fort en début de match pour pouvoir mettre en difficulté tout ce bloc défensif des Monégasques. Mais il faudrait pour ça qu'ils arrivent à trouver des solutions, parce que les Monégasques sont bien quand même positionnés assez haut et empêchent les intervalles pour que les Rennais puissent s'installer.
Petit souci au niveau de l'arbitre, Maxime. 0-0, 2 minutes de jeu.
La batterie.
C'est la montre qui pose un problème.
C'est la montre,
Jérémy Pignard. La goal line technologie.
C'est étonnant. C'est testé d'habitude en préambule de la rencontre. Bon, là, il a arrêté le jeu. Il est venu voir son assistant Nicolas Rainville pour échanger de montre.
On va revenir vers vous dans un instant. L'AS Monaco face au Stade Rennais. 0-0, c'est parti depuis 3 minutes. Mais il y a également du triathlon avec la fin de la partie vélo, cyclisme, les championnats d'Europe à Munich. Valentin qui suit la course homme.
Et même scénario pour le moment, il reste un peu plus de 5 km à vélo à parcourir. On rappelle que les triathlètes ont déjà fait 1,5 km à la nage. Il y avait 40 km de vélo, il en reste 5 et après on aura 10 km de course à pied. 3 Français sont dans le peloton, le groupe de tête composé de 12 triathlètes. On a Léo Bergère, on a Dorian Coninx, on a Pierre Lecor qui prennent leur relais, qui pour l'instant sont très bien sur ce triathlon des championnats d'Europe. C'est d'autant plus intéressant que certains des potentiels concurrents sont dans un groupe à 1 minute à peu près, notamment Yelle Jeans, le Belge troisième du classement du circuit mondial qui n'a pas pu accrocher ce groupe de tête. Donc il va y avoir de la place, pourquoi pas pour les tricolores sur le podium. On espère qu'ils vont répondre présents sur la course à pied qui s'annonce dans un petit peu plus d'un tour maintenant pour les hommes de tête. Donc 3 Français dans ce groupe de 12 qui mènent pour l'instant ce triathlon.
Merci Valentin, et on espère comme hier une issue heureuse avec une médaille, et cette médaille de bronze d'Emma Lombardi chez les femmes. Tiens, cette information qui va vous intéresser, qui va t'intéresser Manu, Keylor Navas, c'est Arthur Perrault de la rédaction qui vient de nous informer. Keylor Navas a accepté de rejoindre Naples. Maintenant il faut que les deux clubs se mettent d'accord, mais en tout cas l'actuel numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens qui aujourd'hui ferme et fixé par Christophe Galtier, Manu, Keylor Navas qui accepte de rejoindre le Napoli, c'est normal, il doit partir parce qu'il n'a pas l'étoffe d'un numéro 2. Enfin, en tout cas, c'est trop large pour lui. Enfin,
Par rapport à son âge aujourd'hui, il doit jouer. Donc, c'est bien qu'il arrive à trouver un accord avec Naples et aussi un accord avec Paris Saint-Germain qui le laisse partir. Parce que c'est quand même un gardien de grande qualité.
Trop petit pour lui, je voulais dire, l'habit de numéro 2 pour Keylor Navas, le gardien du Costa Rica. Retour au jeu avec ce match qui a débuté à 17h. Monaco-Rennes, Maxime Tilliette, Florent Germain.
Avec une nouvelle tentative rennaise, elle est signée cette fois-ci Flavien Thé qui s'essaye à l'entrée de la surface de réparation. Ça s'envole un petit peu, ça passe aller à un bon mètre au-dessus de la cage d'Alexander Nubel. Les Monégasques qui ont un petit peu de mal à ressortir et qui, lorsqu'ils défendent et que les Rennais ont le ballon, essayent de rester très haut. On voit Philippe Clément essayer de pousser les attaquants rennais à se positionner en hors-jeu.
Oui, début de match globalement à l'avantage du Stade Rennais. Hein. Ce sont les Bretons qui posent le jeu, qui ont la possession du ballon légèrement, hein, parce que là les Monégasques viennent d'aller de l'avant, mais ils le perdent rapidement ce ballon avec un coup à jouer, peut-être Gaëtan Laborde qui est alerté côté droit, la remise dans l'axe directement. Il y avait également Le Vromayeur qui demandait le ballon et finalement ni Gaëtan Laborde ni Benjamin Bourigeaud n'ont pu vraiment aller inquiéter Alexandre Nubel. Ballon pour Ben Yedder.
Et ça va filer en touche. La passe était bonne, hein, de la part de Guillermo Maripane qui a trouvé une solution dans le dos de la défense, le long de la ligne de touche. Wissam Ben Yedder qui était venu un petit peu dézonné, mais il a bien été couvert par Amari Traoré. Amari Traoré qui l'an passé ici avait concédé un pénalty, hein, le bras décollé du corps sur une remise de la tête de Caio Henrique. On va suivre les performances du capitaine rennais, alors que Caio Henrique, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2027, effectue cette remise en jeu. On va retourner vers l'arrière avec Guillermo Maripane. Donc première vraie phase de possession pour les Monégasques. 0-0. 7e minute de jeu avec Axel Vizazi qui allonge
vers Golovin. Ouais, effectivement, le bon retour, la couverture du capitaine rennais à Marie Traoré, mais la touche est jouée rapidement avec désormais Caio Henrique. Ça combine pourquoi pas avec Fofana et Le Vromayeur qui perd le ballon à l'entrée de la surface pour Ben Yedder qui essaye d'avancer, qui essaye de se mettre en position de frappe ou tout simplement de se défaire de l'étau rennais. Là, il y avait du monde autour de lui, ouais, au moins 3 ou 4 joueurs autour de lui, et c'est Joe Roden, le défenseur gallois, une des recrue d'intersaison qui a eu le dernier mot. Attention à l'attaque des Rennes.
Avec Le Vromayeur qui a une solution sur sa droite, c'est Benjamin Bourigeaud. Il est alerté, le centre en une touche vers... c'était Flavien Thé qui a voulu laisser passer le ballon vers Gaëtan Laborde. Heureusement pour les Monégasques, c'est Jean Lucas qui a fait un bon retour et qui a amené le ballon dans les pieds du gardien Alexander Nubel. Ça va permettre. On voit en tout cas l'arbitre, hein, monsieur Jérémy Pignard, beaucoup laisser jouer. Il y a eu quelques accrochages, des bras tenus, des maillots tirés. Il a laissé l'action se poursuivre. Et là, ça a failli faire mouche pour les Rennais. Les Rennais qui récupèrent une nouvelle fois le ballon avec Santa Maria qui essaye d'alerter tout de suite Gaëtan Laborde. C'est un peu trop long. Vanderson qui remet de la tête à son gardien.
Manu Amoros,
qui a du mal à se créer des occasions, Arnaud Manu, hein, quand même. Faut se remettre les idées à l'endroit après l'élimination de cette semaine face au PSV. Mais on a vu la saison passée des matchs de Monaco où d'entrée ça mettait la pression, où d'entrée on venait inquiéter l'adversaire. Là ça en rend un petit peu, bon, on va pas
tirer. Oui Flo, on a vu le match la semaine dernière contre Strasbourg. À Strasbourg, les Monégasques ont fait une première mi-temps très 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 bonne dans le pressing, dans la conservation de balles et surtout dans les occasions. Donc là, comme on disait tout à l'heure, là je pense qu'ils doivent prendre un temps de prudence par rapport à cette équipe de Rennes, parce qu'elle a besoin de gagner. L'équipe de Rennes, elle a perdu la semaine dernière et donc elle a besoin de se rassurer à travers ce match compliqué pour elle.
Et Monaco a aussi besoin de gagner pour se remettre la tête à l'endroit, Manu, parce qu'il y a cette défaite mardi. Est-ce que tu as compris certains choix de Philippe Clément, parce qu'on a vu quand il a fait rentrer Gelson Martins, Crépin Diatta en deuxième mi-temps, ça a tout de suite mieux fonctionné. On voit qu'aujourd'hui Brahim Embolo aussi, qu'on n'oublie pas, qu'il a fait une bonne rentrée à Eindhoven, même si ça n'a pas suffi. Est-ce que tu as tout compris dans les choix du technicien belge?
Alors c'est difficile à en parler, parce que tu sais, tu fais en tant qu'entraîneur, tu fais des choix et tu penses avoir fait les meilleurs choix par rapport au match que tu vas faire. Après il y a l'adversaire qui te crée des problèmes, et au fur et à mesure que l'adversaire te crée des problèmes, toi tu arrives à te situer par rapport à eux très difficilement, mais on a vu quand même les Monégasques qui étaient très bons quand même au PSV et qui ont marqué ce deuxième but qui est très, très important. Après, bien sûr que les changements ont apporté dans la dynamique de l'attaque et dans le regroupement, mais je pense que là, contre PSV, ils ont reculé quand il ne le fallait pas. À partir du deuxième but de Ben Yedder qu'il a marqué, ils ont commencé à reculer et à subir constamment. Alors qu'une équipe, quand elle mène, il faudrait avancer pour pas subir constamment les attaques de l'adversaire et de pouvoir se prémunir de voir d'un penalty ou des erreurs comme il y a eu sur les deux buts que le PSV a marqué.
Avec des erreurs de marquage au deuxième poteau, Manu, et on cible un petit peu Vanderson qui était le latéral droit. Je sais pas si tu as entendu coach Courbis, il trouve que c'est un bon joueur, mais que défensivement, c'est pas forcément la garantie. Il a pas cet ADN, cette niaque.
Je sais pas s'il a appris le fonctionnement de la couverture mutuelle quand le ballon est à droite ou à gauche, pardon, lui il doit couvrir ses défenseurs centraux. Si on l'y a pas appris, s'il a pas l'habitude de le faire, c'est vrai que ça devient compliqué. Donc c'est un contre-attaquant qui va très vite, qui est bon techniquement, qui apporte un plus offensivement. C'est vrai qu'il a des lacunes défensives. Et ça s'est vu contre le match de mardi.
Et pour l'instant, ça ne se voit pas. 0-0 entre Monaco et Rennes. On revient à Louis II.
Il n'y a pas de risque en ce moment.
Non. C'est sûr. Manu, ne bouge pas. Le triathlon, on vient d'assister au passage entre le vélo et la course à pied. Championnat d'Europe avec cette épreuve masculine. Valentin Jamin à Munich.
Oui, et ce, après 1h10 de course. Et les trois Français qui ont lâché le vélo en trois premières positions. Ils faisaient partie toujours de ce groupe de 12 triathlètes. Mais c'est eux qui sont arrivés en premier. C'est eux qui sont repartis aussi dans les premiers. Quand je vous parlais de la densité du triathlon français, illustration pour l'instant, Dorian Coninx, Pierre Lecor et Léo Bergère font partie du groupe de tête et sont très très intéressants. On espère que ça va tenir avec eux pour la course, alors que là je vois notamment un Allemand en train d'essayer de prendre quelques mètres d'avance, mais pour l'instant ils sont bien devant. Léo Bergère, Dorian Coninx et Pierre Lecor, c'est parti pour les 10 km de course avant l'arrivée ici à Munich.
Et on va suivre ça dans une petite demi-heure, une grosse demi-heure même pour ces 10 km pour les triathlètes. Ça va déjà très vite. Manu, les 10 km en une demi-heure, tu les faisais ?
Oh non, pas du tout, non. Quand même pas. Peut-être quand j'étais jeune et
plus jeune.
En forme,
plus jeune.
Peut-être, mais je crois pas. Hein, c'est humain. C'est des courses. Les mecs, ils sont fadas hein, de courir autant que ça, faire du vélo, faire de la nage. Enfin, je sais pas. Mais...
Puis les efforts niveau cardio sont incroyables.
Mais ils doivent récupérer, je pense, au niveau du vélo, même si ils vont assez vite. Je pense qu'ils doivent
en peloton, oui.
Ouais.
C'est vrai que c'est.
Et après la course à pied, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Hein.
Ah, puis en plus ça monte, vraiment c'est dur. On va suivre évidemment cet effort intense, avec peut-être, pourquoi pas, rêvons d'un triplé français sur le podium avec Coninx, Lecor et Bergère. Retour à Louis II avec l'AS Monaco face au Stade Rennais, ce match qui a débuté à 17h, ce choc avec Florent Germain et Maxime Tilliette en place.
Et toujours la même physionomie avec des Rennais qui sont bien en place, qui essayent de trouver les solutions dans le dos de la charnière monégasque. Que pour le moment ça ne fait pas mouche, mais en fait ce sont les Monégasques qui perdent souvent le ballon et qui s'exposent à des situations rennaises. Là c'est Monaco justement à contrario qui se projette avec Repinjata dans la surface, dans le couloir droit. Il joue en retrait sur Vanderson qui peut frapper du gauche, c'est sur la barre. Mandanda était dessus, ce sera un 6 mètres en tout cas, ça a frappé la barre. Première très grosse alerte pour l'AS Monaco.
Ah, j'ai eu l'impression qu'il l'effleurait, ouais. Visiblement non, puisque l'arbitre assistant signale tout de suite sans hésiter dégagement aux 5m50. On va voir le ralenti. Non, pas forcément. En tout cas, il s'envole. Il est quasiment sur la trajectoire, Steve Mandanda, mais belle frappe de la part de Vanderson. Pied gauche enroulé. Qui heurte donc assez puissamment la barre transversale de Steve Mandanda. 13 minutes de jeu, 0-0. Effectivement, Rennes se procure des occasions. On a vu Truffert. Attention, Gaëtan Laborde qui peut venir mettre la pression face à Alexander Nebel. Allez, match équilibré, on va dire. Et cette première grosse occasion, elle est venue du latéral droit dont on parlait, Vanderson, avec cette frappe qui voit Steve Mandanda un peu inquiété. Le ballon qui heurte la transversale.
Et en plus, Manu, ils ont été malins. C'est les Monégasques qui ont gagné le toss, messieurs, parce que Steve Mandanda, il a le soleil en pleine face. Hein.
en pleine tête, en pleine face. Les supporters rennais aussi. Hein. Pas de casquette pour Steve. Pas de casquette pour Steve. Les supporters rennais ont un tiers de leur tribune qui est ombragée, évidemment. Ils s'y sont tous agglutinés pour profiter un petit peu de l'ombre et s'éviter le soleil qui tape. Alors que le premier carton jaune, et c'est rouge. Oh, le rouge pour Youssouf Fofana.
Ah, une semelle.
Alors là, il a dû s'essuyer les crampons sur un rennais. Je vois pas exactement, c'est Flavien Terrier. C'est Terrier qui est au sol, tout à fait. Et les soigneurs qui font leur entrée à grande vitesse.
En tout cas, Monsieur Pignard n'a pas hésité un seul instant. Alors lui, Fofana, il crie à l'injustice, tout comme le coach Anthony Clément. Ça a l'air de mettre en furie les Monégasques. Mais c'est vrai que Martin Terrier, il est au sol. Il semble souffrir. On va voir au ralenti si il lui marche vraiment sur la cheville ou pas. Ouais, il lui écrase la cheville.
C'est pas mal,
c'est bon. C'est dans le jeu aussi. Il essaye de récupérer le ballon, Fofana.
Ça me paraît un peu dur.
Parce qu'il n'y a pas de vitesse. Il y a juste, je joue le ballon. Il lui écrase. C'est pas violent. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas.
Non. En fait, il est en retard pour bien situer l'action et bien la raconter. Il y a effectivement Martin Terrier qui se jette sur le ballon comme s'il allait le tatler. Et effectivement, Fofana est légèrement en retard.
Et c'est un duel presque à l'arrêt, Florent. Hein.
Oui.
Ah ouais, non, mais il est à l'arrêt en fait. Hein. Il se jette juste. Et Fofana également qui veut mettre le pied, il est en retard. Il lui marche sur la cheville et sans hésiter, c'est ça qui peut être surprenant. Des fois, on prend le temps de voir comment va Martin Terrier, s'il se relève, parce que là, il est déjà debout. Hein. Il va reprendre sa place, après, il n'y aurait pas de souci. Carton rouge direct.
Flo, est-ce qu'on peut demander la VAR pour un carton rouge éventuel?
Ah oui, bien sûr.
Erreur manifeste.
Alors, au lieu de se précipiter à l'arbitre, il laisse calmer un petit peu tout le monde, il demande à la VAR s'il y a carton rouge ou carton jaune. Non,
ouais, et après,
la décision.
S'il est sûr de lui,
il y a un dialogue avec les gens qui sont là-bas et lui-même pour savoir réellement, parce que là il se précipite sur le carton sans attendre.
Oui, mais Manu, il s'offre aussi la possibilité de revenir sur sa décision. S'il sort un jaune, normalement tu vas pas voir la VAR après pour déjuger ton jaune. Tu sors un rouge,
ça, ils vont
tu peux voir la vidéo après et dire non, finalement ça vaut un jaune.
Oui, sauf que là il y a personne l'a appelé.
Non, mais après on va pas non plus critiquer la vidéo à longueur de saison. Et là on a un arbitre qui prend ses responsabilités. Si comme tu le dis, Arnaud, il est sûr de lui, bah pourquoi pas. Après ça peut être on peut ne pas être d'accord ou quoi, mais lui tout de suite, mais il a estimé qu'il n'y avait pas de doute. Et
Flo, on n'est pas d'accord sur l'action. Fofana, il essaye de récupérer le ballon. Terrier qui le pousse au dernier moment. C'est un geste que tous les footballeurs ont fait dans leur carrière. Donc, on prend un rouge pour une action comme ça. Mais qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir des tacles beaucoup plus appuyés que ça?
Parce que c'est vrai que... oui, pardon, Maxime, pour un changement.
Ouais. Du coup, changement, oui. C'est Wissam Ben Yedder qui cède sa place, le capitaine. Très, très déçu, hein, il ne s'y attendait pas. Hein. Il a été très surpris lorsqu'il a vu le tableau d'affichage. Et c'est le jeune Sunguntu Magasa qui va faire sa première apparition en Ligue 1. C'est un milieu de terrain profil box-to-box de 18 ans. Et il avait juste avant de signer son premier contrat pro il y a un peu plus d'un an. Il était sollicité par la AS Rome, la AC Milan, plusieurs gros clubs. La saison passée, il a participé à un seul match en pro. C'était en Coupe de France sur la pelouse de Quevilly-Rouen. Il était entré en jeu pour la dernière minute de la rencontre dans le temps additionnel. Sinon, il avait fait une grosse saison évidemment en National 2. Changement qui a surpris un petit peu les supporters monégasques. Hein,
qui a surpris les monégasques. Et alors, je ne veux pas exporter mes polémiques qui naissent souvent à Marseille. Mais là, un Ben Yedder qui enlève son brassard, qui est énervé, qui a à peine envie de taper la main taper dans la main du coach, qui ne comprend pas ce choix d'être lui remplacé. Oui. Il l'a très très mal vécu, hein, Wissam Ben Yedder. C'est le genre de décision. Alors évidemment, un coach, il n'aime pas ça, hein, de se réadapter quand on est 10. Mais le capitaine n'a pas apprécié. Hein.
Et en plus, Wissam Ben Yedder qui a l'habitude de scorer hein, face à Rennes. Il a marqué 8 buts lors des 7 derniers matchs face au Stade Rennais. Et là, ouais, il est sorti très très frustré, à l'image également du public du Louis II qui a un petit peu sifflé la sortie de Wissam Ben Yedder, non pas pour siffler sa performance, puisqu'on n'a pas vraiment eu le temps de le voir cet après-midi. 19e minute de jeu, 0-0. Et donc les Monégasques qui évoluent désormais à 10 contre 11 face au Stade Rennais.
Et toi qui as prévu un but de Ben Yedder dans les paris, Maxime, on te remercie tous pour le nez, quoi, pour avoir senti les choses. Quoi.
Manu, bon, je veux t'entendre sur ce changement
la semaine dernière.
Il y en a qui ont cassé leur livret A quand même en écoutant tes conseils. Quoi.
Ouais, là aussi, le choix de l'entraîneur, c'est aussi un peu précipité. Je vois pas pourquoi on change tout comme ça, parce qu'il y a un carton rouge. Je crois qu'il y avait des solutions, soit un Mbolo reculé un petit peu.
Après, il fait rentrer un récupérateur, il avait ses deux récupérateurs, il veut au moins garder.
Il peut mettre
Mbolo
aussi, il peut mettre Diata qui resserre un petit peu et laisser laisser un seul avec les deux attaquants. Donc voilà, je pense qu'il y avait des solutions avant de faire rentrer Magasa.
Et surtout faire sortir un joueur comme Ben Yedder,
un leader. Ben oui.
C'est un petit peu surprenant. Surtout le capitaine. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un capitaine sortir pour un ajustement tactique quand on passe à 10. J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent à l'esprit. Le temps, le score. AS Monaco, Stade Rennais. Florent Germain, Maxime Tilliette.
19 minutes, 0-0 ici au Stade Louis II entre Monaco et Rennes. Et donc, on rappelle cette info importante. Il y a 3 minutes. Carton rouge pour Youssouf Fofana. Une semelle sur Martin Terrier. Terrier qui se relève, qui va mieux. Et derrière, le changement tactique ou la réorganisation avec le coach monégasque qui fait sortir Ben Yedder pour l'entrée de Magasa.
Encore 3 tours, le triathlon messieurs, championnat d'Europe à Munich.
Occasion pour Rennes avec Martin Terrier qui va fixer, qui va frapper, c'est cadré, bien capté en deux temps par Alexander Nöbel. 0-0 toujours, mais Rennes va sûrement bien intensifier sa domination à 11 contre 10.
Laurent Germain, Louis de Munich, Valentin Jamin avec les derniers kilomètres de ce triathlon messieurs. Est-ce que nos Français sont toujours aussi bien placés?
Oh oui, ils sont toujours aussi bien placés. Encore 7 km à parcourir. Il y a un groupe de 6 qui s'est détaché devant. Et sur ces 6 garçons, 3 Français, Dorian Coninx, Léo Bergère et Pierre Lecor, toujours les mêmes. Dorian Coninx qui avait été un petit peu détaché au début de la course. Il revient d'une petite blessure à un mollet, donc peut-être que ça a tiré. Mais il est bien revenu. Pour le moment, il mène même le train. Donc les 3 Français accompagnés du Portugais, João Pereira, du Hongrois, Xonkor Lehmann et de l'Allemand qui va bientôt faire la jonction, Jonas Schomburg. Ils sont très très bien, ces Français, pour le moment. Encore 7 km à parcourir dans la course à pied de ce triathlon des championnats d'Europe.
Et on va suivre ça. Après plus d'une chance sur deux de faire une médaille, ça serait quand même bête de ne pas signer un voire deux Français sur le podium de ce triathlon. On suit la course. On revient dans un instant dans l'Intégral Sport, la suite notamment de Monaco Rennes à Louis II, les Monégasques réduits à 10-0-0.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
De retour dans l'Intégral Sport sur RMC jusqu'à 19h. À un moment, c'est la pause fraîcheur au football. 0-0 entre Rennes et l'AS Monaco qui reçoit les Rennais. Mais le triathlon, puisqu'on arrive dans presque la fin de la course, dans à peu près 20 minutes, et on a des Français très bien placés. Valentin Jamin, les championnats d'Europe à Munich.
Il reste moins de 5 km de course à pied. Et cette fois, ce sont 4 garçons qui se sont détachés en tête de cette course. Et parmi les 4 garçons, les 3 Français sont toujours là. Léo Bergère, Pierre Lecor et Dorian Coninx sont accompagnés du Hongrois Xonkor Lehmann. Mais c'est Dorian Coninx qui a accéléré. Et là, on voit le Hongrois en train de décrocher. Ça veut dire que les 3 Français sont en train de s'envoler, Arnaud. Que les 3 Français, Léo Bergère, Pierre Lecor et Dorian Coninx, sont en train peut-être d'écraser l'ensemble de la concurrence européenne. Alors, rappelons qu'il y a des absents, le champion olympique norvégien Christian Blumenfeld ou encore le vice-champion olympique britannique Alex Lee. Mais quand même, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. La densité française est en train d'écraser l'Europe entière. Et Lehmann, le Hongrois, qui est en train complètement de lâcher prise. Ça va le faire pour les 3 Français. S'ils parviennent à maintenir ce rythme, on devrait peut-être les voir arriver pour signer un triplé sur la boîte, ce serait exceptionnel. Alors que là, c'est Lecor, Pierre Lecor, qui est en train de perdre un petit peu de temps, de mettre par rapport à Léo Bergère et Dorian Coninx. Magnifique ce qu'ils font pour l'instant, moins de 5 km à parcourir. On est peut-être sur un magnifique triplé français ici au championnat d'Europe de triathlon.
Et ça serait formidable et on va le vivre sur RMC, l'arrivée donc dans une dizaine de minutes. Du retour au foot, Monaco à Rennes. La première mi-temps en compagnie de Manuel Amoros, c'est sur place. Florent Germain, Maxime Tilliette.
Et oui, toujours 0-0, 27e minute de jeu ici avec l'expulsion. Attention, la frappe placée, Flavien Théou. C'est sorti par Alexander Nöbel. La belle horizontale, il s'est déployé, le gardien allemand, sur sa droite pour envoyer ce ballon en corner. Les Monégasques qui venaient de se créer une situation quelques instants plus tôt. Et voilà, ça va offrir un corner pour les Rennais qui va être frappé par Lovro Maier avec également Benjamin Bourigeaud qui traverse le terrain pour aller aider son compère croate. Vanderson est également à l'affût. Du monde dans la surface de réparation, les Rennais qui aimeraient eh bien profiter de leur avantage numérique sur la pelouse du stade Louis II suite à l'expulsion de Youssouf Fofana. C'est Bourigeaud qui semble poser le ballon et qui s'apprête à frapper le ballon. Le coup de sifflet de Jérémy Pignard et les 3 pas d'élan.
Oui, 27 minutes 0-0, le corner qui est tiré au deuxième poteau, c'est bien fait, la tête, encore une fois une parade magnifique de la part d'Alexander Nöbel. Je crois que c'est Martin Terrier qui est là pour ce deuxième ballon, et il y avait également la puissance physique de la part d'Arthur Théâtre, lui qui avait marqué contre son camp. Ouais, c'est bien Martin Terrier qui est juste derrière Théâtre, qui lui s'élève, il croit mettre la tête, le défenseur belge et Martin Terrier au final au deuxième poteau qui reprend ce ballon par deux fois, mais la première intervention est magnifique, celle d'Alexander Nubel. 28 minutes 0-0 et du beau monde en tribune.
Du beau monde en tribune, à noter la présence de Mohamed Camara qui va s'engager avec l'AS Monaco, on peut le confirmer. Milieu de terrain de 22 ans, malien en provenance de Salzbourg. Il est présent, il assiste à la rencontre. Il va devoir faire oublier Aurélien Tchouaméni. C'est lui qui est censé être son successeur. C'est dommage, s'il avait pu être qualifié avant cette rencontre, il aurait pu peut-être disputer ses premières minutes dans l'entrejeu suite à cette expulsion de Youssouf Fofana. Mohamed Camara donc monégasque.
Manu, on voit Manu Amoros, on voit Alexander Nouvel qui a sauvé deux fois la baraque, oui. Mais pour combien de temps là?
Eh ben, on n'en sait pas trop. Hein. Les Rennais sont de plus en plus pressants. Ils écartent davantage le jeu. Et c'est ça qu'il faut faire quand une équipe joue à 10. C'est-à-dire d'écarter le jeu et de pouvoir trouver des espaces après dans l'axe. Donc là, ça a été à suite d'un corner et une frappe, une très bonne frappe. Mais les Monégasques sont en difficulté maintenant parce qu'ils se font étirer sur toute la largeur du terrain. Et ça devient un peu plus compliqué.
Le temps, le score, Maxime Tilliette, Florent Germain, Louis II.
30e minute de jeu, 0-0 entre Monaco et Rennes. Et tout à fait, Manu, les Rennais qui font circuler le ballon avec la Baptiste Santa Maria qui allonge le jeu vers Bourigeaud. Une belle transversale, déviation de la tête en une touche vers Lovro-Mayer. C'est bien couvert par Magassa qui fait une bonne petite entrée sur le milieu de terrain de 18 ans qui vit sa première donc en Ligue 1 sous les couleurs monégasques. La touche effectuée par Amari Traoré vers Baptiste Santa Maria. Le jeu qui va repartir de l'autre côté.
On revient vous voir dans un instant. Le triathlon, la situation. La situation se décante, le championnat d'Europe, l'épreuve messieurs à Munich, Valentin Jamin.
Il reste encore 4 km à parcourir pour l'homme de tête maintenant. Léo Bergère a accéléré. Ils étaient 3 Français en tête. Il a laissé derrière lui Pierre Lecor et Dorian Coninx. Léo Bergère, on le disait, c'était le favori. Lui qui a explosé cette année, 26 ans, 4 courses sur le circuit mondial, 3 podiums et une 4e place. Il était attendu pour l'instant. Il répond présent. Il va donc rester un petit peu moins de 4 km à parcourir pour Léo Bergère. Et derrière, Pierre Lecor et Dorian Coninx sont en train de s'accrocher pour les 2e et 3e places. Il voit revenir le Hongrois Csongor Lehmann qui n'est pas complètement décroché, mais ça sent bon en tout cas la victoire pour Léo Bergère qui va probablement, si ça continue, s'offrir sa première grande victoire chez les seniors en individuel. Il va rester 2 tours encore à parcourir et un petit peu moins de 4 km.
Il est bien, on voit, il n'a pas le masque pour l'instant, il semble vraiment très très bien Léo Bergère qui pour l'instant sur la saison le meilleur français.
Ouh,
qui surprend, attention,
pénalty à Louis II, pénalty pour AS Monaco avec la sortie un petit peu hasardeuse de Mandanda qui prend un carton jaune. Il est sorti sur ce centre très lointain qui était vers Brelembolo là, qui fait des roulades au sol. Et le gardien, l'ex-gardien marseillais qui est sorti au point et qui a heurté non pas le ballon mais plutôt la tête de l'attaquant
la
suisse.
Manu, là, hein.
Ouais, il n'est pas d'accord, Steve Mandanda, il est en train de contester cette décision. Bon, là aussi, on peut éventuellement revenir sur l'affaire, mais.
C'est pénalty indiscutable, Manu.
Oui, il y a pénalty indiscutable, mais bon, Mandanda,
ça réclame même le carton
regard.
Rouge.
Ouais, mais ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il pourrait mériter le carton rouge, mais quand on voit bien l'action, Mandanda suit du regard le ballon et il ne voit pas l'arrivée d'un Mbolo. Donc, et de joueurs, pareil, Mbolo, il regarde aussi trouve le ballon. Donc, à partir de là, il y a un choc qui est terrible.
Alors, qui va tirer le pénalty? Il n'y a plus Ben Yedder.
Ah, pour l'instant, on en est encore loin. Là, on ne sait pas. C'est qui a pris le ballon? Il me semble que c'est
Mbolo.
C'est Dizazi qui a pris le ballon sous le bras et qui a hérité également du brassard de capitaine. Bon, Mbolo est en train de se relever tout doucement. On est en train de.
Mais là, honnêtement, l'action de Mandanda, ça peut valoir rouge.
La semaine dernière, il a pris
le ballon quand même.
Le gardien de Lyon. Pour ça.
Il touche le ballon avant, mais c'est vrai que.
Non, il touche pas le ballon, c'est Mbolo qui touche le ballon. Hein.
Non, il touche le ballon, Steve Mandanda.
Non, il touche pas le ballon, non.
Bah, tu verras l'anti.
Ah ouais, écoute,
mais
j'ai pas bien vu alors.
Ou alors j'ai mal vu, mais je suis curieux de le revoir. Moi, je suis persuadé qu'il prend le ballon du poing et ensuite, avec le coude, me semble-t-il, il heurte le visage du Monégasque.
Et c'est bien le défenseur central qui va frapper ce pénalty.
Effectivement. Axel Dizazi, qui avait marqué lors du match aller ici sur la pelouse du stade Louis II face au PSV Eindhoven.
Malheureusement.
Monsieur Jérémy Pinard qui demande à tout le monde de rester derrière la ligne. C'est bien Steve Mandanda, donc, qui n'est pas expulsé, qui sera sur cette ligne de but pour faire face à Axel Dizazi, le capitaine monégasque, l'ancien du stade des Reims, qui a 3 pas d'élan, qui va frapper de son pied droit, une grande respiration. Et l'arrêt de Steve Mandanda qui capte le ballon, ça fait toujours 0-0 ici à Louis II.
Il est parti du bon côté, il ne s'est pas jeté. Les supporters marseillais vont vont le chambrer, parce que parfois on le critiquait, on disait à Marseille, Steve, il faut arrêter les pénaux. Bah oui, il est transféré à Rennes, premier pénalty face à lui, et il part du bon côté, et surtout il le capte magnifiquement. Il avait choisi ce côté droit, mais attention, c'est pas terminé pour les Monégasques, qui a revu partir avec Mbolo là. Super barré de Steve Mandanda, qui malgré tout n'emmène pas large. Il a pas un grand sourire, il est un peu vexé, énervé d'avoir concédé ce pénalty, même si derrière il rattrape le coup parfaitement en stoppant ce pénalty d'Axel Disasi. 33 minutes de jeu, toujours 0-0.
Manu, superbe arrêt ouais. Ou ouais.
Non, non, super barré. Quand un gardien arrête, c'est un super barré. Quand le joueur met à l'extérieur des buts, on peut dire que le joueur a raté son pénalty. Là, c'est pas le cas. C'est
la frappe de Terrier, encore une fois, Alexander Nobel. Elle n'est pas trop appuyée pour Martin Terrier, cette reprise. Il aurait pu peut-être mettre un peu plus de puissance. Il s'est tellement appliqué sur ce ballon qui arrive à une dizaine de mètres de la cage d'Alexander Nobel. Il est concentré, il met le plat du pied et effectivement c'est cadré, mais il n'y a pas assez de puissance pour venir battre le gardien de l'AS Monaco. Ça s'emballe un petit peu à 11 minutes de la mi-temps, toujours 0-0.
Pas de but, mais beaucoup d'animation. Carton ouais. Rouge de Fofana à la 15e, et là ce pénalty manqué par Axel Disasi côté monégasque. On revient vous voir dans un instant. Le triathlon, puisqu'on est dans le dernier tour, championnat d'Europe à Munich. Valentin Jamin, est-ce qu'on se dirige ou pas vers un triplé français?
Malheureusement, ce sera peut-être pas un triplé. Léo Berger, on le rappelle, est toujours en tête. Il est dans son dernier tour. Pierre Lecor, pour l'instant, est passé second sur la ligne avant le dernier tour. Et puis, c'est Csongor Lehmann, le Hongrois. Je vous disais qu'il revenait. Il a fini par reprendre Dorian Coninx, qui essaie de s'accrocher. Mais ça semble un petit peu difficile pour le tricolore. Ce qu'on va regarder aussi, c'est si Pierre Lecor résiste au retour du Hongrois, qui était plutôt bien. Il n'y avait que 9 secondes d'écart entre les deux. En tout cas, le titre devrait revenir aux Français. Léo Berger et Pierre Lecor est en train de se bagarrer pour avoir la médaille d'argent. Csongor Lehmann est troisième et Dorian Coninx quatrième. Mais allez, on peut espérer qu'il revienne, même si la dynamique était plutôt en faveur du Hongrois. On est dans le dernier tour, il va rester un peu moins de 2 km allez, environ pour Léo Berger, qui devrait s'imposer.
Merci Valentin. Le dernier tour, effectivement, avec ses montées, il y a un peu de boss à Munich. On supplète le corner avant de se quitter. Monaco-Rennes, Florent Germain, Maxime Tilliette.
Avec à la baguette Benjamin Bourigeaud et son pied droit. Il avait offert 12 passes décisives la saison passée. C'est beauté au second poteau, c'est très fort. Vers Martin Terrier, la remise de la tête, c'est dégagé par Caio Henrique. Toujours 0-0, 36e minute de jeu à Louis II.
Et on vient pour les 10 dernières minutes de cette première mi-temps avec Manu Amoros entre Monaco et Rennes et l'arrivée du triathlon. Est-ce qu'on va voir un triplé français, en tout cas la médaille d'or?
Attention, peut-être le ballon dans la surface avec Crépin-Diatta et l'arrêt, nouvelle fois de Steve Mandanda. Crépin-Diatta qui avait fait un appel monumental, servi au point de pénalty par Caio Henrique, mais c'est repoussé par l'ancien gardien marseillais.
Un match fou, mais il y a 0-0. Maxime Tillier, Florent Germain, on vient dans un instant poursuivre la fin de cette première mi-temps. Monaco réduit à 10.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
17h40, et avant de revenir à Monaco pour Monaco-Rennes et suivre la fin de cette première mi-temps, ça sent très bon, la médaille d'or sûre et peut-être d'autres qui vont suivre en triathlon à Munich, les championnats d'Europe, Valentin Jamin.
Et oui, puisque Léo Berger est toujours en tête et n'a pas été repris et va probablement s'imposer. Il est en train de chauffer le public puisqu'il est dans les tout derniers hectomètres. Léo Berger, 26 ans, le Français va vivre le plus grand moment de sa carrière en individuel. On l'a dit, on l'a répété, il est deuxième du circuit mondial cette saison. Mais incroyable saison pour lui. Il était 21e au JO Tokyo. La progression, elle est énorme. En deuxième position, un autre Français, c'est Pierre Lecor. Et puis en troisième, on disait que c'était un Hongrois, Csongor Lehmann. Eh bien, il s'est fait rattraper par Dorian Coninx, qu'il avait dans un premier temps déposé. Et bien finalement, Dorian Coninx va peut-être également jouer le podium, mais pour l'instant on va se concentrer sur l'arrivée avec Léo Berger qui passe une première fois devant nous. Il salue le public avec la main gauche. Oui Léo, la première grande victoire en individuel de sa carrière, elle est là, alors que Pierre Lecor passe également. Il est en train de sprinter, mais rien ne va y faire. Léo Berger qui va faire le petit demi-tour, il passe devant les vélos, il va pouvoir accélérer sur la ligne d'arrivée qui va être tendue alors qu'on a accéléré du côté de Dorian Coninx. Ils vont faire 1-2-3, ils vont faire 1-2-3 les Français. Dorian Coninx vient de déposer devant nous Csongor Lehmann, le Hongrois, alors que Léo Berger est dans les tout derniers mètres, il franchit la ligne. Léo Berger, champion d'Europe de triathlon, et on va avoir un triplé français avec Pierre Lecor qui va passer maintenant. Pierre Lecor qui rejoint Léo Berger, il le montre du doigt, et oui, Léo Berger a été plus grand, mais Pierre Lecor a parfaitement réagi. Et Dorian Coninx qui passe à l'instant. 1, 2, 3, le triathlon européen est totalement bleu, blanc, rouge cet après-midi à Munich. Léo Berger, sacré champion d'Europe, Pierre Lecor deuxième, et Dorian Coninx troisième. Merci messieurs.
Si on pouvait envoyer trois Marseillaises, on l'aurait fait. C'est historique. Bravo pour ce podium 100% français. Que ça fait plaisir de voir Léo Bergère, qui est probablement le meilleur triathlète du moment au monde. En tout cas, même s'il n'y avait pas certains cadors, il est très fort cette saison dans les classements mondiaux. Bergère 1, Lecor 2 et Koenigs 3. Ça donne quelques frissons. C'était magnifique. Merci Valentin. Oui. Et dès que tu as les réactions, évidemment, priorité pour entendre notre trio magique, notre trio français sur le podium. Allez, direction Louis II pour les 5 dernières minutes. On va se remettre un petit peu de nos émotions avec ce triplé français. On n'oublie pas le bloc, puisqu'il y a également la finale messieurs. Bah tiens, on peut lui faire un petit coucou à Morgan Maury, également à Munich, ça plus en centre-ville, alors que le triathlon est près de l'ancien stade olympique où il y a d'ailleurs eu la victoire de l'Olympique de Marseille face à Milan en 93. Là, on va en centre-ville, Morgan, pour eh bien le bloc messieurs. On a vu la médaille de bronze pour la difficulté chez les femmes. Là, le bloc, on est à 4-5 mètres maximum avec cette énigme à résoudre. Et on a deux Français qui sont engagés dans cette finale.
Oui, on va tester ces problèmes un par un avec 5 minutes de repos entre chaque. Un seul Français pour l'instant s'est frotté au premier de ses murs. C'est Mejdi Chak, le jeune Français qui a déjà gagné une épreuve de Coupe du Monde. Il semblait avoir touché la zone. C'est la partie au milieu, ce qui permet d'obtenir 3 points, 25 points si vous arrivez au sommet. Apparemment, ça a été refusé. Il a raté donc cette première voie. On va le retrouver dans 5 minutes sur le deuxième mur. Sam Avezou, il ne s'est pas encore élancé. Ils sont 6 dans cette finale. On voit les deux Français, Mejdi Chak et Sam Avezou, et la star, le Tchèque Adam Ondra, qui partira en dernier.
Merci Morgan, on suit évidemment le passage des Français. Allez, retour à Louis II, les deux dernières minutes du temps réglementaire. AS Monaco, Stade Rennais, avec Manu Amoros et au stade Maxime Tilliette et Florent Germain.
Et toujours 0-0 avec les Rennais qui eh bien, font circuler le ballon pour faire bouger Sedi Monégasque. Oui, réduit à 10 après l'expulsion de Youssouf Fofana. Le ballon file de la gauche vers la droite avec désormais Terrier qui alerte Lovro-Mayer face à Vanderson. Mayer qui rejoue vers l'arrière. On essaie de combiner avec Flavien Té qui rentre dans la surface. Il va peut-être pouvoir centrer au point de pénalty. Non, il y a un coup de sifflet. Le petit coup d'épaule face à Jean Lucas. Coup de sifflet de Monsieur Pignard qui rend le ballon au Monégasque. Les Monégasques qui ont un petit peu de mal là, sur ces dernières minutes.
Ouais, on rappelle que Monaco a eu l'occasion d'ouvrir le score avec un pénalty concédé par Steve Mandanda. Carton jaune pour une sortie mal maîtrisée de la part de l'ancien Marseillais. Et effectivement, ce pénalty d'Axel Disasi, plat du pied, peut-être pas assez puissant. Steve Mandanda
n'était pas sécurité. Bon là.
Ouais, c'était pas plat du pied sécurité. Effectivement, lui qui a hérité du brassard de capitaine depuis la sortie de Wissam Ben Yedder. En tout cas, Steve Mandanda qui stoppe ce pénalty. Une minute à jouer avant la mi-temps. 0-0, on a vu des frappes de Terrier, des Rennais globalement qui ont le ballon et là qui tentent d'aller de l'avant avec Gaëtan Laborde qui remet vers Santa Maria le ballon côté droit pour Benjamin Bourigeaud. Le bon contrôle peut-être ou en une touche de balle vers Amari Traoré qui s'essaye pour une reprise de volée en pivot pied gauche. Alors là, si ça va au bout les amis.
C'était un peu audacieux, un petit peu audacieux. La remise était belle de la part de Benjamin Bourigeaud en une touche. Il a voulu enchaîner sur le même rythme avec ce contrôle et cette frappe en pivot. Ça a fait une belle chandelle et ça va permettre à Alexander Nubel de relancer les siens. Il va prendre son temps pour essayer de grappiller des secondes pour essayer de rentrer au vestiaire à 0-0. Ce serait déjà une belle affaire pour les Monégasques. Certes, il y a eu ce pénalty, mais sinon dans le jeu, Monaco subit les assauts des Rennais. Le long ballon envoyé par le portier assez raté. Là, il a loupé son dégagement, Alexander Nubel, alors qu'il aura 4 minutes de temps additionnel à Louis II. Et l'intervention de Magassa qui concède le corner. Le jeune Magassa qui est entré donc pour remplacer Fofana. Il a remplacé Wissam Ben Yedder, mais Fofana avait été expulsé juste avant. Il a pris sa place dans l'entrejeu. Il fait une belle petite entrée. Il a gratté quelques ballons, mais bon, subit tout de même lui aussi les attaques Molégasque. Le corner frappé par Lovro-Mayer.
Le corner, effectivement, pour les Rennais, de la droite vers la gauche, avec le pied gauche du milieu croate. 30 secondes de passé dans ces 4 minutes de temps additionnel. C'est tiré par Lovro-Mayer. Encore une bonne intervention des Monégasques. La reprise en pivot couché de la part de Baptiste Santamaria qui se retourne, qui tente pourquoi pas ce geste un peu comme l'avait fait Léo Messi là, à savoir en retourner mais avec un pied au sol, sauf que là il y a beaucoup de monde dans la surface et qu'on ne pouvait pas lober par exemple Alexander Nöbel qui était sur sa ligne sans aucun problème. 0-0 et ballon pour Golovin.
Golovin qui pivote pour jouer vers l'arrière avec Caio Henrique, l'ailier, le latéral monégasque qui allonge le jeu vers Crépin Diata. C'est Arthur Théat qui s'impose de la tête au duel et les Rennais qui vont repartir vers l'avant avec la belle déviation de Flavien T. Ça arrive sur Adrien Truffert qui a devant lui Martin Terrier. Il a un petit peu d'espace. Les Rennais qui vont peut-être pouvoir encore appuyer sur l'accélérateur et qui vont se positionner tous dans le camp de l'AS Monaco.
Ouais, peut-être qu'ils vont regretter hein, cette fin de première période là où il y a eu des occasions. Après, plus le match va avancer, plus Monaco va resserrer sûrement sa défense et va vouloir s'accrocher sur ce match nul à 10 contre 11. Attention avec le Vromayeur, pied droit qui tente de mettre en retrait. Il y avait un appel de balle de Gaëtan Laborde ou de Martin Terrier. La touche à nouveau pour les Rennais avec Benjamin Bourigeaud.
Ouais, les Monégasques qui sont donc désormais en 4-4-1 avec seul Brelem Bolo devant. Martin Terrier qui arrive à trouver c'est Gaëtan Laborde à l'entrée de la surface. La frappe s'est déviée, ça file en corner. Il aurait pu être lobé sur ce coup Alexander Nubel qui avait plongé. Le bon travail de Gaëtan Laborde à l'entrée de la surface, la fin de frappe, puis finalement le décalage, le crochet sur son pied gauche pour armer une tentative.
Manu Amoros.
Oui, le corner joué vite à deux. Au premier poteau, c'est dégagé une nouvelle fois par Mbolo, puis par Caio Henrique. Manu,
est-ce que tu penses que les Monégas vont encore avoir des billes? Parce qu'il y a eu ce pénalty, il y a eu Crépin Diata face à Mandanda. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé un peu passer leur chance?
Bah écoute, vu la première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont laissé passer des opportunités de mener au score. Mais là, on voit bien les Rennais qui sont vraiment pressants. Et s'ils continuent dans cette voie-là, je pense que les Monégasques vont craquer. Même si les Rennais, il va falloir se méfier dans les contre-attaques, parce qu'on a vu que les Monégasques allaient très 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 vite. Donc voilà, je pense que Rennes peut gagner ce match-là.
Et physiquement, avec la chaleur, avec les 120 minutes à Eindhoven dans les pattes, hein, Manu?
Oui, ça peut compter aussi. Donc là, ça va être à l'entraîneur, au bout de peut-être une heure de jeu, voir s'il y a des changements à faire, faire rentrer des joueurs un peu plus frais pour contenir les Rennais qui sont bons. Hein. Ils font une bonne première mi-temps. Malheureusement, comme dans leur premier match, ils manquent d'efficacité.
Avec ces Monégasques à 10 qui ont le ballon, ils l'ont perdu, Maxime et Florent, au stade Louis II.
Oui, une belle connexion là entre Jean-Lucas et Vanderson, son compatriote brésilien, mais la remise derrière n'a pas réussi à trouver Crépin Diata. Ce sont les Rennais donc qui repartent peut-être pour la dernière offensive de cette deuxième mi-temps. Il reste 35 secondes dans le temps additionnel, toujours 0-0 entre les deux équipes. Troisième la saison passée, l'AS Monaco, quatrième le stade Rennais qui pour l'instant n'arrive pas à trouver la faille face à cette défense resserrée monégasque.
Allez Flavien Thay, pour une dernière opportunité peut-être pour le stade Rennais, ça combine entre Bourigeaud et Amari Traoré et récupération de Golovin qui techniquement essaie de sortir proprement ce ballon, d'alerter devant lui Mbolo et ça joue avec Crépin Diata. Il y a peut-être un coup à jouer là pour Alexander Golovin qui va être tout près de la surface de réparation. Le bon retour des Rennais, mais une nouvelle fois Caio Henrique qui est alerté côté gauche. Caio Henrique qui déborde, le centre en retrait, il n'y a personne. Si Vanderson au-dessus, c'était la grosse occasion de cette fin de première période. Ils ont vraiment percé la défense rennaise là comme il le fallait avec Caio Henrique côté gauche qui centre en retrait. Il y aurait eu Wissam Ben Yedder sur une action comme ça faisait 1-0 pour
l'AS Monaco. Même Manu Amoros sur la montée,
peut-être pas
à la place de Vanderson.
Ben Yedder aurait pu se saisir de cette opportunité.
0-0, c'est la mi-temps.
Merci Florent Germain, Maxime Tilliette. Donc 0-0, Manu. Que de faits de jeu, que de mouvements. Et paradoxalement, même si on a vu une domination plutôt des Rennais à 10 contre 11, les meilleures occasions sont monégasques entre le pénalty raté, mais Vanderson avait trouvé la barre. Et là, Vanderson au deuxième poteau.
Oui, et puis il y a l'occasion de Diata aussi que Mandanda, d'une manchette gauche, je crois, sort le ballon. Donc c'est vrai que les occasions sont monégasques. Mais par contre, surtout, ils récupèrent le ballon assez haut dans le camp pratiquement Rennais et ils arrivent à faire presque le surnombre dans cette défense. Donc ça veut dire que le replacement défensif des Rennais est quand même un peu aléatoire, donc il va falloir régler tout ça. Mais c'est vrai que les Monégasques sont dans des actions plus et dans les occasions plus concrets. Les deux meilleurs joueurs, c'est les deux gardiens en fin de compte, hein, c'est Nubel et Mandanda, hein, parce que Nubel a fait des arrêts exceptionnels et Mandanda, le penalty, Diata et quelques autres actions aussi qu'il a fait.
Exactement, donc à voir cette deuxième mi-temps, bien malin qui pourra deviner ce qui se passe, mais en tout cas, on va essayer de se projeter sur cette deuxième mi-temps, puisqu'on parie.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Johan Guillet est de retour. Johan, est-ce que voilà, les parieurs citent une indication sur cette deuxième mi-temps. Évidemment, à 10 contre 11, une petite idée. Hein.
Exactement, ça s'est complètement inversé, Arnaud. Maintenant, c'est Rennes qui est à 1,90, 4,50 la victoire de Monaco et 2,55 le nul. Messieurs, je vais rester têtu et je vais rester sur la victoire du Stade Rennais. Je trouve que 1,90 à 11 contre 10, après, contre un adversaire qui vient de jouer 4 jours auparavant, ça se tente. Je trouve ça très bon. On double presque la mise. Rennes à 1,90.
Le nul ?
Le nul, il est à 2,55.
Et un peu plus de 4 pour la victoire monégasque, Manu.
Ouais, mais Johan, si tu mets la victoire de Rennes, mais avec un but d'avance ou deux buts d'avance, puisque tu vois la victoire, donc ça doit rapporter un peu plus.
Ah bah oui, là dans ce cas-là, on peut jouer sur les arcs, sur les écarts,
ouais,
de but.
L'écart précis, oui.
Sur l'écart précis, exactement. Rennes, ouais, par 2-0, exactement. Par exemple. Alors attends, je te le trouve tout de suite. Le 2-0.
Ouais.
Le 2-0 pour le Stade Rennais, d'accord. Ouais. Ok, donc on augmente un petit peu. On va sur les scores exacts et le 2-0 pour Rennes. Il est beau, il est à 7.
Ah ben voilà.
Ah, faut y aller, oui.
Et si on tente la victoire de Rennes, il faut tenter avec un score exact.
C'est vrai, le 1-0 Monaco est à 7, exactement.
Et attends, ils ont trouvé la barre, il y a eu un pénalty arrêté.
Moi, j'avoue que le 1-0 me plaît bien également pour Rennes qui est à 4.
Merci, Johan. Voilà.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et on vit également sur RMC les championnats d'Europe, que ce soit la natation, on en parle d'ailleurs dans un instant puisqu'il y a des belles courses à partir de 18h, mais également l'escalade, il y a eu la médaille de bronze de Manon Elie en difficulté, et en ce moment on a deux Français qui sont sur le bloc, Morgan Mori à Munich.
Oui, Maëch Dichal qui était le premier à se frotter au premier des quatre blocs proposés aux six finalistes aujourd'hui à Munich. Il n'a pas atteint la moitié du parcours, ni le top comme on dit, mais aucun des quatre concurrents qui s'y est essayé n'a réussi. C'est le deuxième tricolore, Sam Avezou, qui est en piste, deuxième des demi-finales ce midi. Sam Avezou, il y a cette prise extrêmement difficile qu'aucun grimpeur n'arrive à toucher. C'est une prise à prendre avec les doigts à l'intérieur. Il y a 5 cm entre le mur et la prise. Il faut se catapulter pour aller placer ses doigts à l'intérieur en frôlant le mur. C'est extrêmement compliqué. Pour l'instant, personne n'y arrive. Celui qui arrivera marquera au moins 3 points. C'est le premier mur de Sam Avezou. Pour l'instant, il lui reste une minute pour essayer de résoudre ce problème. Ça ne passe pas. Il aura encore 3 autres murs à lui proposer. C'est une finale long cours, la finale du bloc, Arnaud. Les médailles sont encore loin d'être décidées.
Et on fait le point avec toi régulièrement sur cette finale du bloc. Je vous rappelle le score à la mi-temps, 0-0 entre Monaco et Rennes. Monaco réduit à 10 depuis le carton rouge à la 15e de Fofana. Et puis, puisqu'on parle des championnats européens, le triplé français en triathlon, messieurs. Médaille d'or pour Bergère, deuxième place pour Lecor et troisième place pour Dorian Coninx. Un podium 100% français. On parle de natation dans un instant parce que là aussi, on pourrait avoir une petite pluie de médailles. Direction dans un instant le bassin de Rome. On retrouvera Julien Richard.
RMC
Intégral Sport.